J'aimerais vous proposer ce soir une réflexion sur le chemin immédiat et le chemin progressif. Il y a un proverbe tibétain qui dit « Chaque vallée a son dialecte et chaque enseignant a son dharma ». Et qu'est-ce qui fait que, à travers l'exercice de la méditation, le cœur s'ouvre, l'esprit devient clair, nous nous sentons unifiés, nous nous sentons confiants et aimants et aimés. On ne sait pas trop. Les zen, ils n'ont aucun enseignement, uniquement la pratique. Et puis tout d'un coup, si ça se trouve, il y a le Sartori. Les Tibétains, ils ont un chemin extrêmement dévotionnel, avec des enseignements très profonds, mais après un entraînement très très long de pratiques préliminaires. Goenka, il fait que de la concentration pendant très très longtemps. Je ne sais pas trop quand il commence à amener la pleine conscience. Il semble qu'il l'amène à un moment donné. Il y a des pratiques, la terre pure par exemple en Chine, ils répètent toujours, je crois, un nom d'un de leurs, un Bouddha, je ne me souviens plus son nom. Ils font que ça, ils répètent toujours ce nom. Le Vipassana des moines de la forêt, donc Theravada, il y a ces trois notions qui sont développées et qui sont proposées dans la quatrième vérité noble, dans le chemin à huit voies. C'est la présence, le travail de vérification par l'expérience, mais aussi tout ce travail de compréhension qui fait que nous nous engageons sur un chemin progressif et l'aspect de l'éthique ou de la des qualités de cœur, où nous évitons de faire le mal. Il y a ces trois aspects dans le chemin à huit voies. Et c'est intéressant de savoir. En plus de ça, on peut encore dire que chaque participant a son chemin. C'est incroyable de penser comment chacun d'entre nous entend, pratique, comprend, se situe tellement différemment. Autant de visages, autant de chemins de méditation. C'est fou. Quand j'ai commencé, mes premières émotions spirituelles, c'était quand j'écoutais Krishnamurti. C'était merveilleux. C'était trop bon, ça me faisait pleurer. Mais je me retrouvais dans ma cuisine, je faisais quoi de tout ça? Alors quand j'ai découvert qu'on pouvait entrer dans un chemin de concentration et puis développer le non-moi, ça faisait du bien. Il y a beaucoup de personnes qui enseignent le chemin immédiat. C'est simplement cette ouverture de conscience. Et nous ne savons pas trop pourquoi nous sommes engagés sur le chemin du Vipassana. C'est du karma. Pourquoi celui-là? Pourquoi pas un autre? Pourquoi celui-ci attiré par celui-là, celui-ci par un autre? On ne sait pas trop pourquoi. Mais ça nous fait du bien et puis c'est avec celui-là que nous sommes liés. Et le but, c'est la même chose pour tout le monde, c'est arriver à se perdre suffisamment, à avoir tellement de confiance que nous osons nous perdre pour n'être rien. Parce que être rien, c'est tellement mieux qu'être quelque chose. Juste avant de venir enseigner, on s'est vu avec Christelle et Claire, et puis j'ai eu une parole, voilà, de ces paroles qu'on dit comme ça. Je ne sais plus pourquoi, parce que j'avais un petit doute sur. Ah oui, je sais exactement pourquoi. Je m'enregistre, j'aime pas trop partager ça. Tant pis. Je vous avais donné ces feuilles d'évaluation, puis j'avais un petit doute. Je me suis dit, mais ça va les sortir de la pratique, c'est pas très bien. Puis j'ai dit à Claire et Christelle, ah, oh, ça fait rien, je leur ferai un enseignement ce soir assez costaud pour que ça les remette sur le chemin. Puis après, ça m'est venu, oh, mais t'es vraiment gonflée, hein. Ah, oh, mais est-ce que t'es gonflée? Du coup, c'était génial. Wow, ce doute tout d'un coup. Faut que je fasse un bon enseignement. C'est horrible, là. Il faut que je fasse un bon enseignement. Wow. Ah, ça m'a pris un petit moment pour lâcher. Le but, c'est d'être rien. Et quand il y a cette perception que je dois être quelque chose, que je dois faire bien, que... c'est douloureux, en fait, c'est douloureux. Je vous lis une petite histoire qui s'appelle La splendeur du mendiant. C'est une histoire soufie, un conte soufi. Un ascète en guenilles s'introduit un jour dans le palais du calife de Bagdad et, profitant de l'absence de celui-ci, s'installe sur son trône. Abasourdi par l'outrecuidance du mendiant, les gardes appellent en hâte le secrétaire du palais. Et ce dernier arrive pour constater l'outrage. Il interpelle l'irrespectueux et lui dit: Est-ce que tu te rends compte? Occuper le siège du calife des Abbassides, le commandeur des croyants, c'est une insolence suprême. Sais-tu qui est le calife? Oui, dit l'ascète, je sais, et je suis au-dessus de lui. Les gardes se rapprochent de l'inconscient, attendant un ordre du secrétaire. Hors de lui, celui-ci poursuit: Mais mendiant, ton état de pauvreté te fait-il perdre la tête? Ne sais-tu pas qu'au-dessus du calife, il n'y a que le prophète Mahomet? Que la paix soit sur lui. Lui qui nous a révélé le Saint-Coran. Oui, rétorque l'homme, je sais, et je suis au-dessus de lui. Cette fois, les gardes lèvent leur gourdin, prêts à intervenir. Par un geste de la main, le secrétaire leur intime l'ordre de patienter. Juché sur le trône, l'ascète observe tranquillement la scène. Le visage rouge de colère, le secrétaire tonne. Au-dessus du prophète Mahomet, que la paix soit sur lui, il n'y a que Dieu. Que dis-tu maintenant, mendiant? Je sais, répond celui-ci sans se départir de son flegme, et je suis au-dessus de lui. Les gardes se jettent sur l'ascète. Ils le tirent par les jambes et les bras pour le pousser hors du trône. Il ne pose aucune résistance. À son tour provocateur, le secrétaire exaspéré lui lance: Mendiant, il n'y a rien au-dessus de Dieu. Oui, je sais, répond l'ascète, et justement, je ne suis rien. Ça, c'est le chemin immédiat. Juste maintenant. Je suis là, est-ce que c'est assez? Et si ça pouvait toujours être assez, ben on ne serait pas là. Ou bien on serait peut-être justement là. C'est là qu'on peut pas. C'est intéressant comment on emploie la parole pour essayer de dire ce qu'il est impossible de vraiment transmettre. Thich Nhat Hanh le dit très bien. Il dit, la compréhension n'émerge pas par le pouvoir de la pensée. C'est le résultat d'un long processus d'ouverture de conscience. Parfois, elle peut être traduite en mots, mais souvent, les mots sont trop rigides et limités pour porter beaucoup de compréhension. Donc, nous avons le chemin progressif pour nous mener hors de la souffrance. Et au début, il y a avidja, je ne sais pas, l'ignorance. Qu'est-ce que nous ne savons pas? Avant de s'engager dans ce que nous ne savons pas, c'est important de fixer le but. Et nous pouvons fixer le but dans ce chemin immédiat. Le but, c'est d'être. Et dans ce chemin progressif, c'est d'être libéré. Et pour être libéré, il y a trois choses à cultiver que nous ne savons pas. La première, c'est que nous ne savons pas être là. Nous devons apprendre, cultiver la conscience pour apprendre à être là. La deuxième, c'est que nous ne savons pas être ce que c'est qu'être heureux. Nous confondons le bonheur avec la libération, l'expérience positive avec le fait de ne pas être l'expérience. Et le troisième, c'est que nous ne sommes pas liés. Nous ne sommes pas liés à nous-mêmes. Du coup, nous ne sommes pas liés à l'autre. Nous sommes toujours dans ce chemin de préférence où nous créons le bien et le mal. Je ne sais pas que je pourrais être l'autre. Alors d'abord, nous développons l'exercice. Et pourquoi est-ce que nous avons de l'intérêt tout d'un coup pour cet exercice? Ben, on ne sait pas trop. C'est du karma. Je ne sais pas pourquoi vous êtes là. Cette petite histoire de Nasreddin qui est chouchou, je ne l'ai pas prise, je vais mal la dire, mais ça fait un j'essaye. Il est en train de marcher sur une route et puis tout d'un coup il regarde derrière lui, puis il voit un nuage de poussière. Puis des gens à cheval, puis ils se disent, oh là là, ça doit être des voleurs, des bandits. Et puis ils sautent dans le buisson qui est du côté de la route pour se cacher. Puis en sautant, les voyageurs qui arrivent, qui sont de braves commerçants, voient des jambes comme ça qui filent dans le buisson. Puis ils se disent, oh là là, celui-là, Dieu sait qui c'est, on va aller voir. Puis quand ils arrivent près du buisson, ils s'arrêtent, puis ils vont rapercher Nasreddin, puis ils disent, qu'est-ce que tu fais là? Puis il leur dit, ben, je sais pas. Mais je sais que je suis là à cause de vous, puis vous êtes là à cause de moi. Ben, c'est un peu ça. Hein? On est là ensemble, les uns à cause des autres, on ne sait pas trop pourquoi. Et on est là pour pratiquer. Et d'abord, nous voyons. Il faut voir, apprendre à voir. Qu'est-ce que je vois beaucoup au début, c'est combien ça pense. Est-ce que je vois déjà de nouveau à la fin d'une retraite, souvent, c'est combien ça pense. Et combien la pensée est une grande aide sur le chemin. C'est elle qui véhicule le dharma. Mais combien c'est aussi redoutable. Quand elle maintient l'expérience émotionnelle douloureuse par son identification non consciente. Je me souviens quand j'avais fait une retraite à Amaravati avec Suchito et puis. J'avais ces pensées qui venaient tout le temps, tout le temps. Puis je ne pouvais plus, quoi. Puis j'étais allée le voir, puis je pleurais. Alors lui, il était très content de me voir pleurer parce que ces moines qui méditent depuis des années, ils ne pleurent plus pour ça. Ça lui faisait du bien de voir quelqu'un qui pouvait être engagé comme ça dans la pratique, qui pleurait pour ça. Je disais, mais c'est dingue, ça pense tout le temps. Puis ce n'est même pas des pensées sympathiques, ce sont des pensées horriblement négatives. Puis il m'avait dit, mais le problème, ce n'est pas la pensée. Le problème, c'est le manque de conscience. Regarde les pensées. Et il y a tout ce travail de déblayage de la pensée. Je regarde, je m'intéresse. Ah, celle-là, c'est laquelle? Et avec les obstacles, c'est intéressant parce que on est en même temps dans le chemin progressif et le chemin immédiat. Le chemin progressif me dit, mais oui, c'est un obstacle. C'est un obstacle parce que tu ne peux pas être là, tu ne peux pas voir, tu ne peux pas sentir, tu ne peux rien comprendre. Mais le chemin immédiat, il me dit, mais c'est l'instant. Qu'est-ce que tu fais de ça, c'est l'instant? Nous devons donc vider le mental pour pouvoir développer la compétence de sentir. Parce que nommer, c'est bien. Je nomme au service de mon but. J'emploie la pensée pour être dans la détente, la quête de stabilité. Mais après, il s'agit de sentir, ressentir. Venir dans cette intimité du corps avec le ressenti et la perception et l'émotion. Il y a la concentration dont nous avons parlé qui permet de développer cet immense plaisir, d'abord de la séclusion. Au début, c'est dur une retraite, j'ai pas envie d'être là, j'ai envie d'être ailleurs. Puis peu à peu, oh, mais je suis bien là, quoi. Il y a ce plaisir de juste marcher, juste venir s'asseoir, rien à décider. Il y a des pensées d'évaluation au début. La pensée évalue, discute, doute, le bon doute. Et peu à peu, ces pensées se posent et il reste ce plaisir du corps, juste là, posé, tranquille. Il n'y a plus ces extrêmes d'extase et de désespoir. Ça donne de la joie. La conscience devient alerte. La concentration aide la conscience qui devient alerte, présente, heureuse. Et avec l'apaisement de cette joie vient l'équanimité. Et ce n'est pas évident l'équanimité pour le moi, parce qu'il aime bien se vivre dans les intensités. Il faut apprendre à aimer le neutre, le pas grand-chose. L'équanimité implique une libération du corps, du cœur, et la conscience s'élargit. Ce que je vis devient ce que je vis, quoi, mais pas tellement important. Et c'est la conscience qui devient prioritaire. Est-ce que je suis là? Et si je suis là, ça me suffit. Je suis bien parce que je suis là. Parce que la conscience est un puissant mouvement énergétique au fond d'amour. La conscience habite le corps de quelque chose qui enlève l'inquiétude, qui libère des poisons de l'esprit. Et la pleine conscience, c'est quelque chose qui est puissant. C'est peut-être ce que j'ai appris de plus au long de mes années de pratique. C'est au début, on dit toujours, on entend dire la pleine conscience, c'est le cœur du travail, c'est le centre, c'est le chef. Parce que c'est puissant. C'est extrêmement tranquille, extrêmement plein, mais ça a aussi une immensité très pénétrante. Je suis pénétrée, le corps est pénétré, mais les émotions sont rencontrées de manière intime, intime dans le corps. L'exercice, il nous permet de vérifier. C'est par l'exercice que nous vérifions. Et parce que nous habituons le corps à être là, la présence corporelle est essentielle. Nous ne sommes jamais trop dans l'exercice corporel. Tout simple, tout simple. Que ce soit entre les assises et dans les moments d'intervalle ou dans l'assise, le corps est là. Il n'a pas besoin d'être là spécial, mais je le sens. Et avec la montée, l'ouverture de la boîte de Pandore, les émotions qui émergent, toutes ces émotions qui viennent de peur, de panique, d'obstination, de doute. Il y a cette purification qui se fait. Et alors la clarté mentale arrive. Et pourquoi est-ce que tout à coup, pourquoi est-ce que dukkha ou l'impermanence ou le non-moi sont des notions qui deviennent claires pour le mental? C'est parce que je les ai vécues à travers l'exercice. J'ai souffert de toutes ces attaques d'identification, de besoin d'existence, de ras-le-bol, tout ça, je l'ai vécu, ça a été, je me suis donnée, nous sommes donnés. Et c'est parce que nous nous donnons que la compréhension mentale s'ouvre, que la conscience s'ouvre au niveau, je dirais, physique. La conscience devient large physiquement et je peux l'employer. À chaque fois que je me rappelle de bon, mets-toi dans le big mind plutôt que d'être là coincé dans ton truc, ah, ça s'ouvre. Et la clarté mentale vient parce qu'elle accompagne, en fait elle vient après. C'est pas que j'entends quelque chose et puis que je veux faire comme. C'est que, ok, j'ai entendu des choses et puis je m'en sers pour nommer ce que je vis. Et c'est un outil qui permet de lâcher. J'ai eu toute une histoire il y a une année et demie, 2 ans. Je ne sais plus combien de temps, une année, je ne sais plus. Où mon propriétaire m'a pris mon jardin. Il m'avait promis de me laisser mon jardin. Et puis un jour, il est venu avec le trax, il a tout bousillé, coupé les arbres. Et j'avais le cœur brisé. J'ouvrais ma porte, je regardais mon jardin, j'avais les larmes qui giclaient. Quand je ne regardais pas, ça allait, je vivais très bien. Mais il suffisait que j'ouvre la porte, contact, et pouf. Puis ça durait, ça a duré 1 semaine, 2 semaines. Je téléphone à ma fille, puis je lui dis, mais tu sais, je crois que je fais une dépression. Puis elle me dit, non, ça c'est pas de la dépression. Si quand tu regardes pas, ça te fait rien, c'est pas de la dépression. Bon, ok. J'aurais dit que j'ouvre ma porte, puis que je pleurais. Et puis j'ai eu un téléphone ou un mail, un téléphone avec Sundara, une nonne d'Amaravati. Puis elle m'a écouté, tout ça, je l'expliquais. C'est vrai qu'il y avait un cas d'abus évident. Et puis en plus de ça, le respect de la nature. J'avais mis des plantes vivaces. Je m'étais donnée comme une dingue. Et puis elle me dit, c'est dukkha. Ça m'a fait, pouf. Ah ben ouais, c'est dukkha. Et puis c'est tombé. n'y a pas que ça qui a fait lâcher. C'est aussi mon petit-fils, mon grand-petit-fils de 17 ans. Je le vois, puis il me dit, alors ça va ce jardin? Je dis, mais non, ça me prend encore le cœur. Puis il me regarde avec un regard tellement d'étonnement immense et puis un certain mépris. Elle en est où la vieille, quoi? Que ça m'a fait tout de suite me remettre dans mes pompes, quoi. Je me suis dit, non, c'est vrai, ça va, quoi, ça va. Dukkha, nous pouvons l'expérimenter vraiment dans ces trois aspects. Ça fait mal. Et Dieu sait si nous pouvons souffrir en retraite. Parce qu'au fond, une retraite, c'est comme la vie. Et la compassion est très nécessaire quand ces moments de perte de confiance arrive. Ça fait mal des fois. Et puis, quand ça fait du bien, et ben tout d'un coup ça passe. Mince quoi. C'est plus là. Ou bien, je sais pas très bien ce que je désire. Je suis dans cette hésitation, je sais pas. Je sais pas où aller. Et puis il y a ce troisième aspect, c'est ce manque. Nous sommes en manque d'une plénitude qui résonne en nous. Nous sentons bien que ce monde ne nous donne pas assez. Et pas à la hauteur de qui je suis vraiment en profondeur. Et ça crée un manque. Alors je vais toujours chercher à assouvir ce manque par tous ces petits désirs. Puis j'arrive jamais. Alors peu à peu. Par l'exercice, nous nous rendons compte que la souffrance est inéluctable, mais nous nous rendons compte aussi que la fin de la souffrance est possible. Et ça devient de plus en plus clair qu'est-ce que c'est que la fin de la souffrance. Ça devient de plus en plus clair que ça n'est pas du tout la fin de la peine. Ou la fin du fait que je suis à l'étroit. Mais c'est la libération du fait que je suis à l'étroit. Et au fond, quand j'ai vraiment compris, vu qu'il n'y a pas de saisie, c'est égal qu'il y ait la peine ou la joie. Parce que s'il y a la peine, c'est juste la peine. Et je sais donc. Et je sais, c'est impermanent. Et je sais, ça n'est pas moi. Ça n'est pas qui je suis vraiment. C'est comme une ombre qui passe. Mais c'est sûr que pour le moi, la fin de la souffrance, c'est la venue du confort, de la stabilité, de l'assurance, d'un corps qui est bien là. Et nous pouvons voir ces deux choses. Comment pour le moi, c'est la bonne expérience qui donne l'impression que je ne suis pas dans la souffrance. Et comment, vu que ça ne dure pas, j'ai meilleur temps de lâcher cette idée. Et il y a au fond deux choses qui se mettent en parallèle. C'est cette compréhension intellectuelle est la possibilité d'être là instant après instant. Et ça, nous pouvons le vérifier si je viens vraiment dans l'expérience maintenant. Mouvement de la main, parole, sensation du corps, parole, vue, sens de la vue. Si je reste qu'avec ça, que je le fais dans l'assise, par exemple, il n'y a pas de moi. Il n'y a que ça, il n'y a que des objets. Que des objets. Il n'y a pas de moi, il n'y a pas de place pour la création d'un moi. Et c'est cette expérience qui permet d'avoir accès à une compréhension, une clarté mentale par rapport à Anatta, par rapport au non-moi. Parce que ça fait peur, le non-moi. Il fait peur au moi. Le moi, il veut vivre, il ne veut pas mourir. Il ne veut pas être rien. Il sait pas que c'est bon. Dans un sutta, le Bouddha dit à... C'est l'histoire de Bahia, c'est... Ah, peut-être que Pascal Auclair en parlait, je suis plus sûre de son talk. Il est très pressé d'être éveillé, je sais plus pourquoi, ce Bahia. Il veut absolument être éveillé tout de suite. Puis le Bouddha lui dit, mais attends, là je suis en train d'aller en Pindabat chercher ma nourriture, je t'expliquerai tout ça après. Puis il lui dit, non, j'ai pas le temps, j'ai pas le temps, je sais plus pourquoi, il doit tout de suite. Alors le Bouddha lui dit, bon, alors je te dis. Et il lui dit, dans le vu, il y a juste le vu. Dans l'entendu, il y a juste l'entendu. Dans le senti, il y a juste le senti. Dans ce qui est perçu, juste le perçu. C'est ainsi, Bahia, que tu dois t'entraîner. Et quand, Bahia, il y a pour toi dans le vu juste le vu, dans l'entendu juste l'entendu, dans le senti juste le senti, dans le perçu juste le perçu, alors, Bahia, il n'y a pas de toi connecté à tout ça. Et quand, Bahia, il n'y a pas de toi connecté à tout ça, il n'y a pas de toi ici. Et quand Bahia, il n'y a pas de toi ici, alors Bahia, tu n'es ni ici, ni là, ni entre les deux. Juste ça, Bahia, c'est la fin de la souffrance. C'est la fin du temps. Quand on expérimente le non-temps en retraite, je suis là. Et je ne suis ni ici, ni là, ni entre les deux. Juste. Cela est tellement insaisissable qu'il est hors du temps. Il est déjà passé avant que j'aie eu le temps de le reconnaître. Donc, quand il y a cette manière immédiate de percevoir l'expérience, nous pouvons faire l'expérience de Anatta. Parce que la conscience est totalement occupée par l'objet qui arrive et passe. C'est une manière. De développer le chemin progressif. La souffrance est et elle n'est pas à moi. C'est tout le travail. Et quand il s'agit des émotions perturbatrices, se souvenir de Mara, c'est juste Mara. je te vois, Mara. Non seulement je te vois, mais je te ressens, j'ouvre mon cœur. Quand le Bouddha, juste avant qu'il ait son illumination, Mara a paniqué, elle s'est dit, oulala, celui-là, il va m'échapper, attention les vélos. Et puis elle a envoyé toutes ses flèches au Bouddha. Et puis lui, avec son grand cœur qui s'est ouvert à Mara, je te vois, Mara, les flèches se sont transformées en fleurs. Donc, ça n'est pas que les flèches ne viennent plus. Les flèches viennent nous tester. Et elles viendront encore. Mais c'est égal qu'elles viennent, puisque nous savons comment les transformer en fleurs. Et Mara, c'est ce qui bloque, ce qui obstrue, ce qui rejette, ce qui tient à distance, ce qui a peur, ce qui veut être reconnu, être aimé. Ce qui ne demande qu'une chose, c'est expose-moi à la lumière pour que je puisse lâcher. Et ce qui nous empêche d'exposer, c'est le désir, cette illusion, cet aveuglement du désir. Je désire autre chose que ce qui est. Il y a une très jolie parole de Halach, c'est aussi une parole soufie qui dit, elle est un peu compliquée, mais moi je trouve qu'elle est géniale. Je désire ne point désirer, car je suis le désiré et tu es celui qui désire. C'est cette habitation du corps par la présence. Je désire ne pas désirer, c'est pas moi qui peux désirer. Moi, qu'est-ce que je peux faire? Moi, je peux éventuellement aider à accueillir. Mais je suis le désiré, je suis désiré par la présence. Et toi, tu es ce qui désire. Et quand ces deux désirs se rencontrent, il y a tellement d'amour qu'il n'y a plus cette peur de n'être pas assez. Et ça, c'est Chanda. Chanda, le désir pour la libération. Nous pouvons le désirer très fort. Celui-là, on peut y aller tout notre cœur. Je te veux. Il y a d'ailleurs des monastères en Birmanie où ce désir du nirvana anime tous les moines. Alors évidemment, il y a les autres monastères qui disent « mais ça c'est tout faux, c'est du désir ». La vérité ultime, c'est du non-moi. Et dans notre expérience, quand je dis s'exposer, oser se laisser perdre, sans aller trop loin, il n'y a pas besoin de monter 5 marches à la fois, mais une marche, j'ose me laisser perdre un peu, c'est très important parce que c'est comme ça que nous faisons l'expérience. Que si nous avons oublié le dharma, lui, il ne nous oublie pas. Il y a quelque chose qui nous porte. C'est cet amour qui est plus grand que moi. Le nirvana, c'est deux choses. C'est d'une part nirvana, la fin de l'agrippement. Mais c'est aussi cette compréhension de cette appartenance, que la présence, elle est disponible, elle est là pour nous, toujours. Je sais la prendre en moi ou la laisser venir en moi. Cette habitation. On peut le prendre par parler d'une habitation, une vraie demeure, notre vraie demeure. C'est cette présence paisible. Peu importe où nous habitons. Donc tout le chemin, c'est ce travail progressif qui inclut la purification karmique, qui peu à peu nous fait comprendre vraiment que nous n'avons pas besoin de faire de bonnes expériences, parce que nous sommes beaucoup plus que ça. Dans une retraite où j'essayais de me laisser perdre et puis je me laissais perdre. Alors des fois je ne savais plus où j'en étais. Et puis il y avait un petit chant qui était venu qui disait « Quand le cœur se sent comme un petit enfant vulnérable, blessé, misérable, écoute la vérité qui chante en toi. Tu es aimé, tu es respecté, tu fais partie de ma beauté. » C'est Joseph Goldstein qui disait « Zéro, c'est quand le vrai plaisir commence. » Il y a donc cette attention à l'instant qu'il est très nécessaire de cultiver. Parce que quand je suis là, je suis en lien avec la conscience universelle. C'est des sortes de clins d'œil. Et ça me lie, ça nous lie. Je vous lis encore une parole que j'avais écrite dans une retraite. Excusez-moi ceux qui l'ont déjà entendue. L'attention à l'instant est un éclat de la vérité, une parcelle de Dieu. Elle est vide de toute saisie et pleine de l'expérience, ici et maintenant. De même, le dharma est ressenti comme infiniment vide, et pourtant plein de tout le créé et l'incréé, de l'immense et du minuscule, du bien, du mal, du sacré, du profane, du passé, du futur, du présent, de la vie, de la mort. Et bien sûr, toute la dimension dont Christelle parlait hier soir des Brahmavihara, toutes ces qualités du cœur, font partie intégrante du chemin progressif. Ce Suchito qui dit « Recevoir la joie est une autre manière de dire le plaisir. » Et le samadhi est l'exercice qui donne un plaisir raffiné. C'est basé sur l'habileté. C'est la rencontre attentive de soi-même avec la joie du moment présent. La joie signifie qu'il n'y a pas de peur, de tension, de devoir. Il n'y a rien que nous devions faire ou ne pas faire. C'est juste ainsi. C'est juste ainsi. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de peur, mais il n'y a pas de peur de la peur. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de tension. Mais c'est tout ouvert avec les choses telles qu'elles sont. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas ce vague sentiment de faute. C'est quelque chose, la faute. Fouf. Je suis fautif. Grande faute. Et c'est important de sentir quand il y a l'absence de toutes ces énergies-là. Et quand c'est tout simple. Et c'est tellement souvent tout simple. Mais nous oublions de le remarquer. Et l'interprétation que nous donnons au monde est souvent beaucoup porteur de avidya, d'ignorance. Alors, nous vivons tranquillement avec ces trois caractéristiques de dukkha, anicca et anatta. Les choses sont imparfaites, insatisfaisantes, souffrances parfois, impermanentes, et nous en sommes libres parce que je sais anatta, non moi. C'est un non-moi qui est plein de sagesse. Je propose qu'on prenne un moment en silence.